Maïl ou chasseur oriental. Je réfute totalement cette
histoire. Moi, c'est une diplomatie au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, c'est de mépris des gens, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de votre fidélité à Radio Okapi qui vous accorde à nouveau la parole. 60 lauréats de la première promotion de l'École nationale d'administration ENA étaient à l'honneur ce mercredi 7 juillet 2015 à l'auditorium du Fleuve Congo Hôtel à Kinshasa. Pour le ministre Jean-Claude Kibala, ces lauréats traduisent la volonté du gouvernement de faire de notre administration publique une administration efficace et compétente tournée vers le développement. Certains observateurs pensent qu'il faut plutôt renforcer la politique de gestion des emplois publics d'une part et l'amélioration des prestations des services publics d'autre part. Qu'en pensez-vous? Vous pouvez nous rejoindre à l'adresse pa@radiocapi.net ou bien nous appeler au 081 890 6315 pour votre intervention en direct et vous avez également la possibilité de poster vos commentaires sur notre page Facebook. Jean-Claude Tiala assure la mise en onde de ce programme réalisé par Julie Feza Bongonda, une émission coordonnée et présentée par J.R. Lungembo sous la supervision de Léonard Moulamba. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net. Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Voilà, il faudrait noter d'abord que c'est le programme de la réforme de l'administration publique qui rentre dans les cadres du programme d'action 2012-2016 du gouvernement relatif aux réformes institutionnelles en vue de renforcer l'efficacité de l'État. Mais la plus grande question en ce qui concerne la réforme de l'administration, aujourd'hui, c'est vrai, il faut rajeunir le personnel vieillissant de l'administration publique, mais il faudrait également penser à la bonne rémunération de ces personnels pour finalement redorer l'image qui a été ternie. Nous avons Maître Adrien qui est à Kananga, Maurice à Kinshasa, Maître Soville à Lubumbashi, tous sont désirés participer à ces débats citoyens. Maître Adrien, vous êtes à Kananga, bonjour. Maître Adrien, vous êtes avec nous? Voilà, on a des petits soucis avec la ligne de Maître Adrien. Maurice est à Kinshasa. Maurice, bonjour.
Oui, bonjour, j'ai entendu.
Vous avez la parole, Maurice.
Oui, je pense que vous avez bien dit, l'objectif, en fait, l'objectif visé même par le ministre ou le gouvernement congolais, c'est d'éradiquer l'administration publique. C'est-à-dire qu'ils sont partis d'un constat sur lequel l'administration est parfaite. Il n'y a pas vraiment une administration telle que nous serons sous notre ciel. L'administration congolaise est vraiment en route. Et nous devons faire l'état des lieux d'abord, au lieu même de penser pour former des gens. Et une trentaine de nos compatriotes pour contribuer en fait, au rajeunissement de notre administration. Je pense que les problèmes doivent aussi être posés fort en amont. Comment d'abord nous traitons, comment nous tenons l'administration dans ce pays? Pourquoi nous ne pouvons pas avoir une administration classique comme nous observons dans d'autres pays développés comme des pays en voie de développement? Le problème, parce que l'idée des pays, c'est un problème qui résiste d'abord au niveau de la rémunération. Comment sont rémunérés ceux qui tiennent l'administration? Par contre, les secrétaires généraux dans l'administration qui est dans le ministère, jusqu'au ici, vous avez peut-être le SMIG en fait, de notre pays ici, allez comprendre que ces gens-là, tant qu'ils ne seront pas bien traités socialement, je pense que tout ce qu'on peut faire, rajeunir, faire ceci, ça sert vraiment de perte de liens financiers au lieu d'abord mis en fait le. Les taureaux par les cornes. Alors, donc, dans ce que je venais de dire, il faudra d'abord faire un état de lieu chercher dans ce domaine-là de l'administration. C'est comme nous avions parlé de sujets sur, je crois que c'était les jours de l'indépendance. On faisait quand même un bilan. On parlait, je crois, tout simplement, des archives, de l'observation des archives. Hein? Les archives font partie aussi de l'administration. Alors, comment on peut tenir bien conserver les archives, si ceux qui sont pensés en fait faire ce travail ne sont pas bien élevés. Hein? C'est ça en fait la grande difficulté d'avoir dans ce pays. Qu'on doit, en fait, on doit commencer d'abord par faire un état de jet et peigner les vrais problèmes, parce que ce problème, bien sûr, il faudra à quoi.
Oui, mais selon vous, oui, Maurice. Oui, Maurice, mais selon vous, quels sont les vrais problèmes auxquels fait face notre administration à ces jours?
Le problème de Félix, c'est le premier problème, c'est pour le traitement qui est réservé à ceux qui tiennent, qui sont en
fait. Oui, mis à part le traitement, la rémunération, vous l'avez dit, mis à part cela.
Oui, la rémunération, d'abord la rémunération, c'est-à-dire qu'il faudra d'abord rémunérer et puis former. Et même d'abord, quand on parle de ces grands compatriotes, les clients même qui évaluent pour en fait récupérer ces compatriotes-là. On vous exige que vous devez avoir au moins 30, au plus, 30 ans. Alors, c'est les gens qui sont ici au chômage. Et c'est chaque année. Hein, depuis des décennies ici, il n'y a que le chômage. Chaque année, on en fabrique des millions. Alors, lorsqu'on dit qu'il faudrait avoir
au plus 30 ans,
c'est juste avoir des critères discriminatoires. Hein, on ne peut pas admettre dans un pays où les gens doivent en fait, profiter de leur bien, les compétences pour
habiter. Voilà, on a des soucis. Oui, on a des petits soucis.
Même de 70%, je ne sais pas, il faut distinguer à l'université.
Voilà. Voilà, on a des petits soucis avec nos lignes téléphoniques. Je crois que essayez quand même de le rappeler pour intervenir dans cette émission. Prière donc, chers auditeurs, de nous passer vos numéros RTL ou encore d'autres réseaux, parce que nous avons des sérieux problèmes avec nos lignes Vodacom. Alors donc, pour nous permettre de vous rappeler, de nous faire plaisir donc de vous rappeler sans problème, facilitez-nous la tâche, hein, parce que là déjà on a quelques interférences qui ne donnent pas de bonne qualité sur les ondes. Merci beaucoup Maurice d'avoir appelé. Et là nous espérons que en fait dans ce programme il faudrait qu'on accorde en fait l'urgence à l'état des lieux de l'administration publique. Ça doit être une priorité selon vous avant de former ou encore d'avoir les soucis de pouvoir rajeunir le personnel de l'administration publique, car le vrai problème réside selon vous au niveau de la rémunération. Donc même si c'est jeunes à qui on pouvait encore avoir l'espoir, qui pouvaient apporter un souffle nouveau, mais il faudrait qu'ils soient bien motivés pour éviter de tomber dans le même sommeil comme les vieillards. Bon, voilà, merci beaucoup d'avoir appelé, et vous avez insisté également sur les critériums de recrutement au niveau de l'ENA. Les jeunes qui ont été recrutés, la condition c'était d'avoir tout au plus 30 ans. Vous avez estimé que c'est discriminatoire. Merci beaucoup Maurice. Maître Sonville, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour.
Bonjour Monsieur Gier, bonjour à tous les millions d'auditeurs de la radio Capi.
Vous avez la parole. Quel est votre point de vue, Maître Sonville?
Oui, par rapport à la thématique, Monsieur Gier, je trouve que c'est une bonne thématique. Ça vaut la peine d'être traité. C'est bien beau, c'est un pas que le gouvernement vient de faire. C'est un pas. Mais comment le gouvernement s'est préparé pour satisfaire ces jeunes lauréats? Puisque, Monsieur Gier, c'est pour avoir l'efficacité de l'administration. Mais comment est-ce qu'on peut avoir cette efficacité de l'administration? Il y a des préalables. Il faut d'abord renforcer la capacité de ces jeunes qui viennent fraîchement de l'ENA, puisqu'ils n'ont pas encore une expérience acquise. Ils doivent être encadrés par le vieux qu'ils ont trouvé au niveau de l'administration. Puisque, pour moi, je trouve que ces jeunes qui viennent, qui sont venus fraîchement de l'ENA, peuvent faire travail même en tant que stagiaire pendant une année, pour acquérir une petite expérience. Ce n'est pas d'emblée directement qu'on peut s'attendre à un rendement meilleur par rapport à leur capacité qu'ils ont acquise au niveau de l'ENA. Mais il y a d'autres préalables, monsieur Gilles. Il ne faudrait pas seulement se contenter d'envoyer les autres, le personnel vieillissant à la retraite. Il faut songer des conditions dans lesquelles ces jeunes gens vont travailler. Puisque ici à Lubumbashi, monsieur Gilles, nous avons vécu dans beaucoup de divisions de l'administration. Il y a même carence de papier duplicateur. Il y a même carence de BIC. Ce n'est pas informatisé. Ce n'est pas modernisé. C'est tout un problème. Est-ce que toutes ces conditions-là sont réunies? Et comment est-ce que ces jeunes-là seront rémunérés pour qu'ils ne puissent pas se donner à la corruption? Puisque, même au niveau du parti, si vous allez au niveau de l'administration, on va toujours demander l'argent pour la farce. Maître, on n'a pas l'argent pour les papiers. Il faut que maître, que vous-même qui demandez le service, vous puissiez encore débourser une petite somme d'argent. Est-ce que c'est dans cette condition que ces gens-là vont travailler? Et maintenant, par rapport à la méritocratie, comment est-ce que ces gens-là seront placés? Est-ce qu'il n'y aura pas encore le problème de clientélisme, le problème de tribalisme? Les problèmes sont énormes dans notre pays, dans notre République démocratique du Congo. Il n'y aura pas la politisation, puisque, M. Juillet, nous avons assisté il y a 2 ans à l'installation des comités de PPRD, au sein de la DGDA, au sein des impôts. Est-ce que dans une vie, un fonctionnaire de l'État peut faire la politique? Est-ce que tout cela n'est pas évité? Est-ce que le gouvernement s'attendra à un résultat escompté? Puisque les fonctionnaires de l'État doivent être neutres, pas de couleur politique. Pas question de religion, tout ça, ils sont fonctionnaires, ils représentent la République démocratique du Congo. Nous avons vécu avec la Belgique, M. Gilles, pendant 3 ans. Il n'y avait pas de gouvernement. Mmh. Mais qu'est-ce qui a fait fonctionner?
C'est l'administration.
C'est l'administration. Ce sont les secrétaires généraux qui ont travaillé pendant 3 ans, sans ministre. Est-ce que ces jeunes gens qu'on vient de recruter aujourd'hui, ces jeunes lauréats, auront cette capacité-là? Quand je pense. Quand je parle de renforcement des capacités.
Donc, si je comprends bien, vous redoutez que ces jeunes soient versés dans un environnement, donc de travailler dans un climat qui ne va pas leur permettre de pouvoir développer leur indépendance d'esprit.
Tout à fait. Il faudrait qu'ils travaillent dans toute indépendance. Vous savez, aujourd'hui, M. Gilles, je vous fais rire. Aujourd'hui, les députés sont payés par le service de sécurité, l'AMR.
Ah bon.
C'est comme ça qu'il faut travailler.
Bon, nous n'avons pas de preuves.
Or, il y a la bancarisation.
Oui.
D'où vient cet argent? Or, avec la bancarisation, il faudrait que tous ceux qui sont dans l'administration, même les députés, doivent être payés à travers la banque.
La bancarisation.
Déposé
merci beaucoup, M. Sotti. Je crois que nous aurons le temps de vérifier vos informations. Mais ce que nous avons comme information, c'est que les députés sont payés par les trésors publics. Voilà. Merci beaucoup, Maître Sauville. 0-81-890-6315 pour votre intervention en direct.
Parole aux auditeurs.
Nous avons dans ce studio 2 invités, après avoir écouté 2 premiers auditeurs qui ont posé les décors de cette émission par rapport à cette thématique autour de l'administration publique, la réforme de l'administration publique. Nous avons Jean-Serge Bicoro, coordonnateur de la cellule de la mise en œuvre de la réforme. Bonjour, monsieur Jean-Serge. Voilà, nous avons également dans ce studio Fernand Christian Toudienou Maguenga, secrétaire général à la fonction publique. Et merci, monsieur le CG, d'être venu. Merci, la dernière fois que nous recevons dans ce studio des paroles aux auditeurs. Alors, d'entrée de jeu, nous commençons avec le CG, je l'ai dit tantôt. La réforme de l'administration publique rentre dans les cadres du programme d'action 2012-2016 du gouvernement relatif aux réformes institutionnelles en vue de renforcer l'efficacité de l'État. Vous venez de suivre d'ailleurs les 2 premiers auditeurs, mais singulièrement, quel est l'objectif global de la réforme de l'administration publique?
Merci, M. le Gembo, pour la parole. D'abord, il faudra que nous puissions nous mettre d'accord sur, cette thématique et la réforme. Réformer, c'est transformer pour améliorer. En fait, le gouvernement et en fait l'état des lieux, le diagnostic. Parce que j'ai entendu M. Moïse dire que il faut faire d'abord l'état des lieux. Donc, le gouvernement a fait l'état des lieux. Et que la réforme a commencé, en fait, en 2003. Et en 2003, on n'avait pas encore la nouvelle constitution. Et en gros, la réforme, c'était pour pouvoir améliorer, moderniser l'administration. Améliorer les méthodes de gestion. Assurer au fil des services publics de qualité, de manière équitable et accessible à tous. Bien sûr que dans un pays aux dimensions continentales. Donc, le gouvernement, dans son programme de 2012-2014, en fait, prend en route une réforme, mais qui, en fait, stagnait. Dans la réalisation. Et il fallait d'abord une révision de la stratégie pour qu'on puisse donc axer les objectifs vers les résultats. Donc c'est ce que le gouvernement a dans cette stratégie révisée. Donc d'abord changer le pilotage. Et à l'époque, le pilotage, c'était le ministre de la fonction publique qui l'assurait. Aujourd'hui, avec la stratégie révisée, c'est le premier ministre qui pilote politiquement la réforme et le ministre de la fonction publique pilote techniquement la réforme. Et devant cet état des lieux, eh bien, le gouvernement a mis ce programme pour qu'en fait, on puisse rendre l'administration plus proche des usagers et une administration compétitive. Nous sommes dans la révolution de la modernité, mais il faut intégrer tout ce qui est comme technologie au service de l'administration pour aussi accélérer le processus de traitement des dossiers, en fait, donc de réduire les temps, donc le temps de la production des services aux usagers. Voilà, il y a eu des défis majeurs qui sont en train de relever. Autre état des lieux, mais un statut obsolète. Et la Constitution ayant déterminé la décentralisation comme mode de gestion de l'État, eh bien, il fallait que la réforme puisse donc être recadrée pour que la décentralisation soit intégrée comme donc un des axes principaux. Voilà un peu. Donc, comment le gouvernement a pris à bras le corps cette question de la réforme, de la transformation de notre administration.
Alors, Jean-Serge Vicoro, vous êtes coordonnateur de la cellule de la mise en œuvre de cette réforme, 4 ans après. Parce que ces programmes, c'est vrai, c'est depuis 2010. Aujourd'hui, 4 ans, 5 ans après, s'il faut faire une évaluation, la mise en œuvre se retrouve à quel niveau? C'est seulement au niveau des lauréats que nous avons obtenus pour l'ENA, ou dans son ensemble, avec le cadre stratégique développé au niveau de l'administration, on a atteint quel niveau?
Merci, M. Lungembo, pour la question. Je voudrais effectivement d'abord soutenir l'idée et même l'approche adoptée par le secrétaire général ici. En réalité, le gouvernement essaie de répondre à une question toute simple, c'est-à-dire nous avons fait le choix d'aller vers l'émergence en 2030 et toute la question de savoir comment allons-nous y arriver. Est-ce que notre administration aujourd'hui nous permet d'espérer d'atteindre cette émergence? Et la question était tout à fait simple, c'est non. Alors, la deuxième question, c'était de savoir alors comment faire en sorte que cette administration puisse nous être utile et être utile à la fois au gouvernement, à l'État en général, pour le conduire ou conduire l'État vers cette émergence-là. Alors, le diagnostic a été posé en plusieurs aspects. Le premier aspect, c'était de voir est-ce que le cadre juridique actuel permet à cette administration d'atteindre effectivement cette émergence. Et la réponse était non, parce qu'inadapté et hors de réalité actuelle. La première réalité a été soulignée par le secrétaire général, c'était déjà que, parce que défini, le statut, par exemple, est défini depuis 1981, il ne prend pas en compte la décentralisation. Ça, c'est un élément. Deuxième élément, l'émergence, c'est des résultats. Ça veut dire des niveaux de développement élevés, des niveaux de revenus élevés, et donc une gestion publique axée sur les résultats. Et donc, le statut tel qu'il est organisé ne garantissait pas cet élément-là. Et trois, c'est cet élément de vouloir approcher l'administration vis-à-vis des usagers, donc répondre aux préoccupations des usagers dans le cadre des services publics qui sont rendus. Et donc, le gouvernement a choisi, et avec la participation des fonctionnaires qui ont contribué à l'élaboration de cette stratégie, a aligné comme premier axe la révision du cadre juridique. Et pour ça, aujourd'hui, au moment où nous vous parlons, hier déjà, les honorables députés, donc dans le cadre de l'action parlementaire, étaient en train de voter la loi portant organisation et fonctionnement des services publics du pouvoir central, des provinces et des ETD. Donc vous voyez déjà que notre cadre juridique s'adapte à cette réalité-là. Ça, c'est une réalisation. Deuxièmement, c'était de se dire, oui, d'accord, nous avons un cadre juridique qu'on doit adapter. Mais en réalité, est-ce que la gestion même des ressources humaines, parce que les ressources humaines qui sont les acteurs clés de cette réforme. Est-ce que ces ressources humaines sont adaptées à ces soucis d'une gestion publique axée sur les résultats et capables de nous conduire vers l'émergence? La question était non. Et donc, il faudrait revisiter nos modes, nos techniques, nos méthodes et même nos technologies que nous utilisons pour gérer ces ressources humaines dans l'administration pour les adapter et les élever à la hauteur de cette ambition. Le gouvernement vient d'achever aujourd'hui, au moment où nous en parlons, un nouveau système intégré de gestion des ressources humaines qui est corrélé à la paye. Donc désormais, le fonctionnaire ou la ressource humaine, dès son recrutement jusqu'à la sortie, est prise en charge à travers un système qui permet au gestionnaire des ressources humaines, aujourd'hui en l'occurrence le ministère de la fonction publique, de s'assurer que la ressource est en train d'être utilisée dans le temps, à l'endroit où il faut, selon les compétences voulues, et qu'à sa sortie, pour avoir rendu des services utiles à la nation, il est pris en charge quelque part. Et comme, parce qu'on parle de la sortie, la question
est de la passion.
Effectivement, parce que les diagnostics posés révélaient que l'administration publique dispose de ressources humaines à peu près à 30 ou 40% vieillissantes. Et donc, la question essentielle, c'était de savoir, est-ce que nous pouvons continuer à espérer l'émergence avec des ressources humaines vieillissantes? Non. Mais en même temps, ces ressources ont quand même servi l'État pendant longtemps avec brio et abnégation. Alors donc, il faut définir un mécanisme qui permette une sortie honorable par rapport à ceux-là qui ont servi l'État dans le temps et une rentrée effective des jeunes, mais qui soit adaptée à la nouvelle vision de l'émergence.
Voilà, donc on va revenir à vous et également au secrétaire général Tudienou, il est temps de repasser de l'autre côté du standard avec Félicien qui est à Kinshasa. Félicien, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour, cher. Bonjour à nos invités et bonjour aussi à tous les auditeurs.
Voilà, merci de nous rejoindre. Quel est votre point de vue par rapport à la thématique du jour?
Moi, d'abord, je commence par féliciter le gouvernement pour avoir pensé à faire renaître l'ENDA qui a fait un grand travail dans ce pays, dans la formation des cadres, des agents,
de l'administration publique.
Parce que depuis des années, on a pris vraiment des gens formés, on recrutait comme ça et ça a créé beaucoup de difficultés. Mais je dois me poser la question, ces gens qui ont été formés, qu'est-ce qu'ils vont trouver sur le terrain? Ils vont trouver que le chef a un salaire de $200, mais il a des villas partout. Et ils vont trouver que le ministre, dès qu'il est nommé, il n'a même pas 6 mois, il a des chars automobiles pour tous les enfants, sa femme et des meubles partout. Et ils vont trouver que les gens sont mal payés, mais ils sont extrêmement riches. Et qu'est-ce qu'ils vont faire?
Oui, Félicien. Oui, Félicien.
Ils ont suivi l'exemple, parce que l'exemple entraîne.
Oui, Félicien. Je crois que ça relève de l'organisation personnelle, l'organisation et la discipline personnelle. Hein. Chacun peut, par son salaire, faire sa vie. Mais dans le fond du débat aujourd'hui, pour vous, les problèmes se posent à quel niveau?
Mais oui, si la réforme, c'est pour mieux faire, quels sont les mots qui ont été identifiés lors des états des lieux avant de commencer la réforme? N'est-ce pas que nous dénonçons tous dans ce pays la corruption, le tribalisme, le clientélisme qui sèche encore? Est-ce que ces mots n'ont pas été identifiés lors des comme étant les mots qui font que les choses ne marchent pas au niveau de l'administration publique et de la gestion de l'État en général? Et quelles sont les solutions qui ont été trouvées pendant qu'on formait ces gens? Ce qu'on a fait pour que ces gens ne tombent pas dans ces pièges-là et dans ces anti-valeurs? Là, que nous devions voir l'intérêt et l'importance de la réforme et de la formation qu'on est en train de donner aux nouveaux administrateurs que nous aurons demain. Moi, je pense que on ne doit pas continuer à travailler de cette façon-là, comme quelqu'un qui a une plaie et qui continue à mettre sur la plaie et respecter, où il y a le puits, au lieu de nettoyer d'abord la plaie. Nous avons des problèmes et nous devons savoir que...
Mais je crois que Félicien, on est très engagé dans ce processus, c'est tout un processus. Le programme, comme je l'ai dit tantôt, est parti en 2010 et aujourd'hui nous sommes en 2015. Je crois que bon, il y a quand même des efforts, vous l'avez reconnu, au niveau de l'ENA. L'ENA qui n'a pas existé, ça fait beaucoup de temps, mais aujourd'hui il y a quand même des avancées. Mais qu'est-ce qu'il reste à faire? La problématique aujourd'hui, c'est que même les personnels vieillissants, ces personnels aujourd'hui, a fait que qu'on puisse finalement comparer la qualité de lauréats qui sont sortis aujourd'hui de l'ENA et les travail, en fait, les coordonnateurs l'ont reconnu, et qui ont travaillé avec dévouement, avec abnégation, et il faudrait ajouter avec beaucoup d'intelligence et les savoir-faire et les savoir-être. Et est-ce qu'aujourd'hui, la nouvelle génération apportera le même savoir-faire et le même savoir-être? Bon, c'est cela la question. Merci beaucoup, Félicien. Joséphine, vous êtes à Boston.
Bonjour, Radio Capi.
Voilà, depuis les États-Unis, quel est votre point de vue?
Mon point de vue, de tout ce que de nos deux invités qui sont sur les plateaux, ils ont parlé, il n'y a pas de chiffres. Les intervenants aussi, ils ont parlé, il n'y a pas de chiffres. Ok, moi je vais leur demander. Ils ont dit que la réforme, le gouvernement a commencé la réforme il y a de cela 4 ans. Quels sont les chiffres? Quand on parle de réforme, on voit vraiment la statistique. Dans tout ce qu'on fait, on doit savoir le gouvernement, quels sont, combien d'employés qu'il emploie. Parce qu'ici, aux États-Unis, le gouvernement emploie 2 721 000 travailleurs. Donc, à partir de ces nombres, de ces chiffres-là, on peut savoir quel est l'emploi qui a le besoin beaucoup plus. Ok, comme nous avons une culture d'oublier, hein, moi je voulais par exemple maintenant là sur les plateaux qu'on me donne les chiffres que comme les nouvelles régions vont créer, combien d'emplois que le gouvernement a déjà prévu. Parce que moi, je me rappelle très bien, j'ai terminé mes études à Lubumbashi, dans la faculté d'économie. On était à peu près 300 étudiants. Et puis, de ces 300-là, il y a que peut-être 30 à 45 amis avec qui on a fini, qui travaillent. Et les autres font quoi? C'est ça la question que le gouvernement doit se poser. Par exemple, à Lubumbashi encore, on vient de m'informer que le gouvernement, vraiment, a décidé d'amener la douane à Dar es Salaam. Donc la douane va payer combien? Il est en train de d'exporter l'emploi. Donc on va donner l'emploi aux Tanzaniens qu'aux Congolais. Mais donc le gouvernement là ne peut pas vraiment trouver quelque chose, comment récupérer la douane auprès de ceux-là qui importent le véhicule.
Voilà, merci beaucoup Madame Joséphine. Je crois que le débat sur les terminales, nous le ferons peut-être très prochainement, hein, on va proposer cette thématique pour y revenir. Mais alors le temps de revenir à nos invités, le secrétaire général, Tudieno, vous venez de suivre cette série, d'abord la première série que nous avons proposée avant, et puis cette deuxième série, comment vous réagissez?
Merci beaucoup, JR. Et je voudrais d'abord répondre à Madame Joséphine de Boston. Elle parle des chiffres. Eh bien, nous parlons, bien sûr que les chiffres, nous ne les élucidons pas, mais bien sûr, nous les avons. Ouais. Et Madame, sachez que notre administration, tous les secteurs pratiquement confondus, l'administration civile, l'administration militaire, la police et l'enseignement, nous comptons 972 000 agents. Et pour...
On avoisine 1 million.
Avoisine 1 million. Et si nous pouvons aller dans quelques détails. Eh bien, nous avons 66 secrétaires généraux. Nous avons 1134 directeurs dans notre administration centrale. Nous avons 4756 chefs de division et nous avons 13989 chefs de bureau. Voilà. Donc, c'est que le gouvernement a fait un effort. Mais nous, c'est parce qu'en réalité, nous parlons un peu de, disons, de la stratégie d'une manière parfois globale. Mais lorsque madame entrera dans le site www.fonctionpublique, elle trouvera tous les détails en ce qui concerne les chiffres, surtout les résultats du recensement.
À ce jour, combien sont concernés par la retraite?
Bon, écoutez, combien sont concernés par la retraite? Il y a 65 secrétaires généraux qui sont concernés par la retraite. 850 directeurs qui sont concernés par la retraite. Pour les chefs de division, 3472. Et pour les chefs de bureau, 10352.
Donc à peu près 15 000 ou 20 000 si mes calculs sont bons.
Ah oui, donc environ 20 000.
Mais à ce jour, nous n'avons que 65 lauréats pour l'ENA. Après 4 ans après la réforme, et s'il faut encore attendre 4 ans, nous aurons 130. Bon, je ne sais pas, je suis en train de raisonner comme de la rue. 130, est-ce qu'on arrivera à faire face à ceux-là qui vont en retraite pour le remplacer automatiquement?
Mais bien sûr que les jeunes des ENAC, les ENAC ne vont pas remplacer les secrétaires généraux. Mmh. Et les secrétaires généraux, suivant le statut, bien écoutez, il y a des directeurs nommés qui remplissent les conditions, qui ont des compétences et qui pourront participer au concours ou être évalués pour occuper les postes de secrétaire général. Ainsi de suite. Mais bien sûr que au niveau des ENAC, il y a un besoin important parce qu'en fait ils vont accéder aux fonctions de chef de bureau et ils ont été préparés pour cela. C'est là pour répondre à Maître Sauville, pour dire que ces ENAC, ils ont été outillés en matière de lutte contre la corruption. En matière de
oui, il y a qu'il a dit tout à l'heure, c'est la théorie qui est, il n'a plus que la théorie.
Non.
Sur le terrain,
la formation à l'ENA, il y a la formation en salle, que nous disons théorique, mais il y a le stage. Et il y a la formation action. Et dans le cadre de la formation action, eh bien, les besoins de résolution des problèmes présentés par les administrations, eh bien, sont soumis à ces ENAC. Et dans la formation action, chaque ENAC a dû résoudre un problème précis. Par exemple, au niveau du secrétaire général chargé des actifs, moi, je leur ai demandé, eh bien, de m'élaborer un manuel de procédure d'évaluation de compétences.
Mais qu'est-ce qu'ils trouveront sur le terrain? La corruption, la concussion, le clientélisme, le fait qu'ils ne soient pas motivés, ils risquent de tomber dans le...
Ils sont suffisamment préparés pour affronter
les réalités. Alors, Jean-Serge Vicoro, c'est vrai, il y a beaucoup de préalables. Hein, des préalables ou des principes majeurs qui, en fait, gouvernent quand même cette réforme, entre autres la budgétisation préalable des besoins en ressources humaines. Où en est-on? Il y a le problème de la mise en place d'un mécanisme de contrôle du fonctionnement des services publics qui devrait en principe être aussi résolu. La question de la mise en œuvre d'une gestion prévisionnelle des emplois. Alors, toutes ces questions-là, où en est-on?
Oui, merci. Vous m'avez arrêté tout à l'heure lorsque je parlais justement de l'instrument que le gouvernement venait de se doter, qu'on appelle système intégré de gestion des ressources humaines et de la paie, qui permet effectivement de répondre à toutes ces questions en temps réel, dans la mesure où c'est un instrument qui permet aux gestionnaires de ressources humaines à chaque instant d'identifier le besoin en ressources humaines par rapport aux besoins de l'administration, les départs possibles selon les anniversaires, et de prévenir ou alors d'indiquer la meilleure programmation possible des nouveaux recrutements qu'il faut avoir et les compétences nécessaires pour occuper certains postes. Donc c'est un instrument de gestion qui renseigne en même temps sur le besoin en ressources humaines, mais en même temps sur les compétences nécessaires qu'il faut pour répondre à ces besoins, et en même temps sur les moyens disponibles au niveau budgétaire pour pouvoir couvrir ces... Donc, on ne va plus commencer à se poser la question, disons, deux ans après que les gens aient atteint l'âge de mise à la retraite, que, on avait autant qu'il était possible. Donc, déjà, à un mois ou deux ans même, on vous signale l'âge des anniversaires selon les entrées, les recrutements pour pouvoir préparer et mettre en place une gestion prévisionnelle. Mais en même temps, le gouvernement est en train de se doter d'une caisse nationale de sécurité sociale, justement pour assurer une gestion efficace et durable de sécurité sociale aux fonctionnaires qui auront atteint l'âge de la retraite. Donc, jusque-là, nous ne disposions pas d'une caisse spécialisée pour la gestion des retraites, et les systèmes étaient dits octroyés, c'est-à-dire l'État prenait en charge la plupart des fonds ou des indemnités liées à ça. Mais aujourd'hui, avec la mise en place d'un système intégré de gestion des ressources humaines, et en même temps la création d'une caisse nationale de sécurité sociale, il sera possible d'offrir aux fonctionnaires, cela dont j'ai parlé une sortie honorable. Et en même temps, parce que les sorties vont devoir créer les besoins et donc planifier les entrées via l'ENA en fonction de besoins à répondre. Tout à l'heure, le secrétaire général est revenu sur les chiffres, le nombre de départs, mais en même temps, je voudrais évoquer la question des jeunes professionnels. Le gouvernement agit aussi à travers un programme qu'on appelle programme jeunes professionnels qui vise les jeunes universitaires dans la mesure où le besoin en ressources humaines sont importants.
Mais qu'en est-il de renforcement des capacités de ceux qui sont là et qui n'ont pas atteint l'âge de la retraite, par exemple?
Justement,
il ne faudrait pas qu'ils soient aussi anachroniques, sinon ça risque de faire vraiment de la bouillabaisse, les nouveaux, les vernacles qui vont rejoindre de l'équipe, et puis finalement, bon, ça sera le conflit des générations.
Oui, c'est pourquoi je voudrais répondre justement à la question d'un des auditeurs. Je crois que l'ENA est un instrument que l'État s'est doté dans le cadre de cette réforme pour non seulement assurer une gestion des qualités au sein de l'administration à travers les compétences nécessaires pour atteindre l'émergence dont j'ai évoqué, mais il y a le volet formation continue qui vise les fonctionnaires en cours de carrière. Ceux-là qui n'ont pas encore atteint l'âge de la retraite, mais qui doivent faire leur parcours et faire, le cheminement normal jusqu'à la sortie. Et l'ENA s'adresse aussi particulièrement à ces genres d'agents et cadres, et des formations spécifiques sont dédiées à ces personnels. Et en même temps, parce que vous vous êtes posé la question avec un des auditeurs de savoir, mais est-ce que ces énarques-là ne vont pas retourner? Oui, mais le gouvernement, c'est pourquoi la stratégie du gouvernement est tout à fait globale, parce que répond à chaque élément des défis qui ont été relevés à l'occasion du diagnostic. Il y a la question liée à l'amélioration des conditions des vies des fonctionnaires. Et là-dedans, vous avez la question de la caisse des retraites, mais vous avez la politique salariale et la rationalisation des primes et des salaires. C'est des conditions qui sont en train d'être mises en œuvre au moment même, pendant que les énarques sont en train d'être formés, pendant que les fonctionnaires en cours de carrière sont en train aussi d'être formés. En même temps, le gouvernement vient d'achever d'ailleurs, à travers un dialogue social, ce qu'on appelle la commission paritaire. Ils ont abordé des véritables questions qui touchent les rémunérations, l'amélioration des conditions de salaire, et donc tout ça c'est des paquets qui sont intégrés sous forme de normes préparées.
Voilà, les textes, comme l'a dit un auditeur, nous avons des textes, mais je crois que le deuxième volet, ce sera son application pour permettre à ce qu'on puisse... Mais l'inquiétude, avant qu'on repasse de l'autre côté des standards, c'est une question que je lance pour vous. 2016, c'est les rendez-vous. La fin de ce programme de réforme de l'administration, ou encore en général, réforme institutionnelle, 2012-2016, mais à ces jours, est-ce que la réforme de l'administration publique sera au rendez-vous? Parce que c'est l'année prochaine déjà, 2016.
En tout cas, je dirais qu'avec l'allure qu'a pris cette réforme, en tout cas, on sera au rendez-vous. Parce que et les fonctionnaires de l'État, à travers les syndicats également, et le gouvernement, et la société civile, tout le monde aspire à une administration publique d'excellence. Tout le monde veut disposer d'une institution publique d'excellence. Il nous suffit de voir combien de réponses nous avons lorsque nous lançons le concours ENA. Donc, on sent que la jeunesse veut à tout prix entrer dans l'administration pour apprendre.
Non, mais parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils n'ont que ça. Le taux de chômage, c'est très élevé. Je crois qu'à chaque fois qu'il y aura une opportunité qui se présente, j'imagine que nous l'avons vu lors de recrutement au niveau de la CENI, plus d'un million de gens qui ont sollicité les postes. Donc, ça ne peut qu'avoir ces mouvements.
On peut avoir cette impression, mais lorsqu'on interroge ces jeunes, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de participer à la cérémonie de clôture.
Parce que ce sera la même chose quand on l'appelle à la police. À la police, nous avons vu le recrutement de la police, tout le monde est allé parce que bon, finalement, on n'a pas le choix.
Oui, justement, tout le monde va, mais on ne retient que
les meilleurs.
Les meilleurs.
Voilà. Je crois qu'il y a une question aussi de la politisation, si vous me permettez, de l'administration. Est-ce que ce caractère-là sera bien préservé?
Bon, vous savez, dans l'état des lieux, on a pu relever le non-respect de la législation, c'est-à-dire que les dispositions du statut pour le recrutement. Vous savez que depuis la réforme de 1973 et même la réforme de 1981, vous savez qu'on a le dernier recrutement sur concours, c'est 1985 au Conseil législatif à l'époque, le Parlement. Donc c'est que depuis cette date, même depuis le statut de 73, à l'époque de la départementalisation, écoutez, le recrutement ne se conformait plus aux dispositions du statut. Parce que la règle, c'est que le recrutement, c'est sur concours. Et étant donné qu'il y a des années qui se sont écoulées, on a recruté sur titre. Mais c'est là, on peut dire que...
Mais qui recrute jamais, nous n'avons pas la face par rapport à plusieurs rapports. Chaque ministre, dès qu'il arrive, non seulement il amène ceux avec qui il travaille dans le service d'appoint, mais il laisse dans son ministère aussi des gens que lui l'a amené. C'est ce qui a fait le volume qui avait augmenté.
Mais c'est ça le problème du défi.
C'est là où j'ai posé la question de savoir la politisation de l'administration aujourd'hui.
Eh bien, avec la stratégie actuelle de la réforme, la politisation, c'est fini.
C'est fini.
Parce que le recrutement, essentiellement,
c'est contraire. Merci beaucoup. Professeur Ignace Ndala, vous êtes à Colézi, Néhémy à Boma, Maître Franck Mbandaka. Professeur Ignace, bonjour. Professeur Ignace, vous êtes avec nous à Colézi. Voilà, la ligne pose encore problème, on va relancer professeur Ignace Ndala qui est à Colézi. Némi, vous êtes à Boma, Congo Central?
Oui.
Vous avez la parole?
Oui, alors, je salue tous les auditeurs de la radio Capi. Mais on fait déjà deux préoccupations. La première, c'est une question d'abord à poser au secrétaire général, à la fonction publique, de savoir si la mesure du premier ministre interdisant les engagements a été lésé. Parce que ce que nous avons vu lors de la clôture de la cérémonie, de la clôture des énarques, on a vu le premier ministre dire qu'il va engager trois parmi les lauréats. Et nous ne savons pas que c'est la mesure que lui-même a prise a été lésée. Parce que vous savez, dans un état de droit, c'est quand tout le monde est soumis aux lois, et ils respectent les règles que nous nous sommes définis nous-mêmes. Parce qu'aujourd'hui, si vous allez dans l'administration, on vous dirait qu'on engage plus que l'ordre du premier ministre. Ça fait pratiquement aujourd'hui, si c'est 5 ans, je ne sais pas. Donc vous comprenez qu'il y a un problème. La deuxième préoccupation, c'est quoi? Parce que par rapport à ce qui se passe dans notre pays, aujourd'hui, on engage les critères de recrutement à l'ENARC. On vous dit qu'il faut avoir 25 ans et avoir le diplôme de licence. Vous vous rendez compte que cette mesure est discriminatoire. Pourquoi? Parce que ce n'est pas facile d'avoir des jeunes. Nous vivons dans des milieux périphériques du pays où c'est rare de voir des jeunes ici des familles pauvres avoir 25 ans et un diplôme de licence. Ce sont seulement les enfants de ceux qui ont beaucoup d'argent, qui étudient en Europe, dans d'autres, ceux qui viennent avec un diplôme. Et c'est pourquoi, moi je pense que il faut, même si on est en train de chercher à arranger notre administration, c'est une bonne chose. D'ailleurs, nous encourageons. Car je suis président d'une ONG qui milite pour l'émergence des jeunes. Nous sommes très contents de ça, mais il ne faut pas qu'il y ait des mesures discriminatoires. Ce n'est pas facile de trouver des jeunes de 25 à avoir des diplômes de licence, et ça, c'est une exclusion.
Voilà.
Il y a un problème aussi de ces journalistes,
oui,
par rapport au découpage territorial. Je ne sais pas si le premier ministre continue toujours à conserver cette mesure, parce qu'il y a plus de 1441 entités territoriales décentralisées
où il y aura 18 600 postes à pourvoir. Là, je sais que ce sont les élections qui vont faire en sorte que les gens aient des postes. Mais dans d'autres, il y a d'autres postes qui seront comblés par des recrutements où on doit prendre des gens. Je ne sais pas, est-ce que cette mesure-là du Premier ministre, elle ne devrait pas lever pour que, aujourd'hui, nous avons vu le ministère de l'Intérieur déjà affecter les commissaires dans la deuxième et à la police. Maintenant, ça reste d'autres entités. Mais je crois que si réellement on veut aujourd'hui faire en sorte que les gens aient de l'emploi, on doit lever cette mesure-là.
Merci beaucoup.
La préoccupation que nous avons par rapport à la situation de la réforme de l'administration. Donc,
merci beaucoup, Némi. Maître Franck, vous êtes en Bandaka. Bonjour, Maître Franck.
Bonjour, Maître Général. C'est salut à l'invité, à tous les. De la radio,
voilà, nous avons deux invités dans ce studio, Maître Franck. Hein. Il s'agit de Jean-Serge Bicoro, coordonnateur de la cellule de la mise en œuvre de la réforme de l'administration, et puis Fernand Christian Toudienou, Magenga, secrétaire général à la fonction publique. Vous avez la parole, Maître Franck.
Oh, merci, M. Yenda, pour la parole que vous me portez. Je voulais intervenir par rapport au...
Oui, on vous entend très mal, Maître Franck. Est-ce que vous pouvez changer votre position là où vous êtes?
Allô?
Voilà, on a difficile à vous suivre parce que là où vous êtes, vous sortez comme dans une caisse là.
Allô?
Oui, allô? Allez-y, Maître Franck.
Ok. Je voulais poser la question à l'invité qui est le secrétaire général de l'administration publique. Hein? Allô?
Allez-y, Maître Franck.
La première question, c'est de savoir les conditions qui sont émises par le gouvernement pour éviter les jeunes licenciés, et deuxièmement par rapport à l'organisation.
Voilà, je crois qu'on avait fait une série d'émissions ici pour expliquer et réexpliquer à nos auditeurs les conditions de recrutement au niveau de l'ENA. Je crois que ce n'est pas l'objet du débat citoyen du jour. Maître Franck, merci. Professeur Ignace Sundala, vous êtes à Colésie. Bonjour.
Bonjour, merci de la parole. Je voudrais juste dire qu'il y a de quoi féliciter le gouvernement qui se ressaisit hein, en sortant d'un serpent où nous avons été depuis très longtemps. Mais il faut reconnaître ici une chose. Je voudrais parler beaucoup plus de l'affectation des nouveaux administrateurs ou des agents qui viennent de l'ENA. Est-ce que nous n'allons pas tomber dans une situation de tribalisation ou de politisation dans la manière de les affecter? Je voudrais aussi dire que il est très très important qu'on insiste sur une structure de remise à niveau ou de recyclage de ceux qui sont à la base pour éviter que les nouveaux venus, au lieu qu'ils viennent relever le niveau, ils se retrouvent absorbé par la routine des anciens. Mais je vais aussi terminer par dire qu'il est très très important de créer un corps de suivi par rapport à l'éthique et la déontologie de ceux qui seront affectés pour que des sanctions exemplaires soient infligées en cas d'erreur. Parce que c'est un corps qui vient pour améliorer, apporter du changement. Voilà, c'est ce que je voulais dire.
Voilà, merci beaucoup, professeur Ignace. Lorsque nous avons débattu sur la question dans nos émissions précédentes, et il y a un auditeur qui avait même proposé, vous avez utilisé les termes corps de suivi, mais l'autre avait plutôt parlé d'un conseil supérieur de l'administration où on pouvait, en tout cas, aider le jeune qui rejoigne l'administration de pouvoir, se référer aux repères et aux questions déontologiques hein, de l'administration publique. Merci beaucoup, professeur Ignace. Nous revenons dans cet studio, mais tout en vous rappelant, chers auditeurs, vous pouvez également participer à ces débats en composant les 081 890 63 15 pour votre intervention en direct.
Parole aux auditeurs.
Voilà, on va réagir par rapport à cette deuxième série des auditeurs et je crois qu'il nous reste un ou deux auditeurs avant qu'on puisse conclure cette émission. Monsieur le CG et le coordonnateur, vous avez la parole.
Merci beaucoup pour toutes ces questions. Némi Aboma. Eh bien, la mesure d'interdiction du recrutement prise par sur le sens de monsieur le Premier ministre, Je la qualifie de salutaire.
Parce qu'en fait, il faut qu'on puisse savoir qui doit recruter dans l'administration publique. Ce n'est pas le chef de division ou le chef de bureau de Boma qui doit recruter. Mais le recrutement...
Encore moins le ministre qui vient, je crois qu'il est politique.
Donc, c'est le ministère de la fonction publique qui, au regard de la loi, a dans ses attributions le recrutement du personnel et principalement par voie de concours. Mais je crois que, comme M. Némi l'a dit, eh bien, il faut qu'on puisse cela. Donc, une des options du gouvernement. Aujourd'hui, on ne peut plus recruter en désordre. Il faut planifier les recrutements. C'est pourquoi, en ce qui concerne les emplois de haut, donc de haut cadre, de la haute fonction publique, mais il y a l'ENA. Et c'est planifié. On est parti de 60. Bien sûr, en tenant compte de la capacité de l'ENA, mais je vous informe que l'ENA a obtenu un site vers Maluku. Aujourd'hui, ce site est couvert par un certificat d'enregistrement. Eh bien, donc, l'ENA, avec, via le ministère de la fonction publique, va faire maintenant la politique de la formation et de la mise à niveau, c'est-à-dire que du renforcement des capacités des agents à grande échelle. Voilà. Donc, c'est que je peux dire que aujourd'hui, le Premier ministre, eh bien, en ce qui concerne les jeunes professionnels et les ENAC, mais il a autorisé parce que ça c'était inscrit dans le programme du gouvernement. Ce qui n'est pas inscrit ou retenu dans le programme du gouvernement, eh bien, ne peut pas venir soumettre.
Mais pourquoi ça ne peut pas être automatique comme ça se passe au niveau de l'École nationale des finances? Parce que, aussitôt terminé, on voit les jeunes qui sortent de l'ENAF entrer directement dans l'administration des finances publiques.
En fait, là, je voudrais bien vous informer que l'École nationale des finances n'avait pas vocation de recruter. L'École nationale des finances a vocation de former et de perfectionner les cadres de l'administration. En fait, l'accès à l'École nationale des finances n'est réservé qu'aux fonctionnaires. Mais ça, c'était un peu une déviation.
On l'a dévié.
Qui donc, de la vocation de l'École nationale.
Je pense que forcément, on fera également un débat de ça, parce qu'aujourd'hui, ce sont des jeunes qui arrivent, ce ne sont pas des cadres d'administration publique, ce qui fait que d'aucuns pensent qu'effectivement, c'est pratiquement comme on dit, l'erreur commune fait le droit. C'est la jurisprudence, en fait. Les neufs engagent les jeunes qui travaillent aujourd'hui à la fonction publique, mais pourquoi ne pas les faire aussi pour l'ENA directement? Ça pourrait aider tant soit peu à résoudre le taux de chômage.
Mais l'ENA, c'est l'entrée. D'abord, l'ENA recrute pour l'administration publique et les cadres qui sont recrutés à l'ENA et qui passent la formation. Mais ils sont déjà comme dans une période probatoire. Mais ils sont des agents de carrière de service public de l'État. Donc, l'école, on ne forme pas comme à l'université. D'abord, les conditions, c'est qu'il faut avoir une licence, c'est-à-dire avoir un bac plus 5.
C'est pas discriminatoire, comme l'a posé à l'éditeur.
Non, c'est pas discriminatoire. Et je pense que M. Néhémy peut savoir que toutes les universités, donc établies sur le territoire national, eh bien, tout candidat ayant terminé dans l'une des universités de la RDC, privé ou public, a accès à concourir donc à l'ENA. En ce qui concerne les affectations, eh bien, ces agents sont affectés suivant les besoins exprimés par les services. Et d'ailleurs, je vous dis que les besoins exprimés sont même au-delà de 1000. Donc
disons, là, c'est comme
c'est déjà au-delà donc de 3000. Donc,
désolé, dommage, on ne peut pas accorder la parole à Chris Mutombo qui est à Kinshasa, à Louis Saluza. Jean-Serge?
Oui, c'est juste pour compléter ce que le secrétaire général a dit, mais pour tranquilliser M. Néhémy, en fait, une enquête indépendante a été menée sur les effectifs de 60 qui ont été recrutés et qui se tiennent bien parce qu'en réalité, c'est plus des enfants issus des familles modestes. Donc, les conditions qui ont été mises en place, c'est des conditions juste pour chercher l'excellence, nous cherchons le meilleur, nous devons quand même être d'accord qu'il faut fixer un certain nombre de critères. Mais heureusement pour l'ENA, la plupart ne sont pas venus des universités européennes dont il a évoqué, mais plutôt de nos universités au niveau local, mais aussi des familles parfois modestes, et surtout, la plupart d'entre eux, c'est des fils des fonctionnaires. Donc vous connaissez que les fonctionnaires n'ont pas autant de moyens qu'il l'a exprimé tout à l'heure. Ensuite, le recrutement actuel, comme l'a souligné le secrétaire général, ne se fait pas rien que pour créer des emplois. Résultat, vous avez parlé de l'ENS, on pompe les entrées sans maîtriser le besoin réel conformément aux cadres organiques, ainsi de suite, et résultat, nous nous trouvons comme dans une camionnette surchargée. Et l'idée actuelle, c'est de rationaliser non seulement les missions des administrations, mais en même temps de corréler les emplois, les compétences aux besoins réels. Et là, ça nous permet de maîtriser les effectifs et en même temps de maîtriser la masse salariale.
Jean-Serge Bicoro, coordonnateur de la cellule de la mise en œuvre de la réforme, merci d'avoir été des nôtres. Nous disons également merci à Fernand Christian Toudienou Magega, secrétaire général à la fonction publique. À très bientôt. Voilà, c'est par ici que nous mettons un terme à cette émission. Nous disons merci à Jean-Claude Fiala qui a assuré la mise en onde, une émission réalisée par Julie Efeza Bongonda, coordonnée et présentée par J.R. Lugembo sous la supervision de Léonard Moulamba. Réécoutez cette émission sur www.radiocapi.net. Nous prenons rendez-vous avec vous demain pour un autre numéro. On va aborder la question sur la prévention des infractions des presse et des fautes professionnelles en période électorale en République démocratique du Congo, qui a fait l'objet d'un séminaire atelier organisé par l'UNESCO le lundi 15 juillet 2015 à Kinshasa. Objectif, promouvoir le rôle et la contribution des médias à la bonne tenue des élections par une couverture médiatique impartiale et responsable. Qu'en pensez-vous? Voilà, donc prenez rendez-vous avec nous demain. D'ici là, portez-vous bien. Bonne suite des programmes sur Okapi.